Les agents
américains. Ceux qui a exploré le merveilleux monde des passages transfrontaliers, c'est notre prochain invité, François Morency, qu'on écoute à une certaine époque.
Quel est votre prénom?
Martine.
Profession?
Docteur.
Voulez-vous m'épouser?
Hein? M'avez-vous demandé en mariage?
Non, voyons. Allez-y. Bye. Alors,
terminé. Je pense que oui.
Mais voyons, hey, c'était pas là, ça suit là. Hey, bye.
T'es malade.
On a une bombe, on a une bombe. Bombe, bombe de bain, bombe de bain. On a des fusils. Fusil à l'eau. Oh, on a une grenade.
Une pomme grenade.
Hey, c'est moi qui le dis. Pomme grenade.
À ne pas faire. François Morency, bonjour.
Hey, bonjour à vous trois.
Hey François, remets-nous dans le contexte. C'est un couple qui passe aux douanes, là, qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est un sketch qu'on avait fait à l'émission Audrey Les Guillemets, où je faisais un douanier qui abusait de son pouvoir et qui stressait les gens qui... Parce qu'on sait que quand on passe, on est toujours, comme vos anecdotes que vous avez lues, on est toujours un petit peu nerveux, même si on n'a rien à se reprocher. Puis ça me rappelle quand on était allé à Old Orchard dans le temps avec certains de mes oncles. J'ai mon oncle Paul Armand qui était très nerveux de repasser aux douanes en revenant. Puis mon père, il avait dit, tout ce que tu as à dire, c'est « j'ai acheté un T-shirt au Duty Free ». Tu as juste à dire ça, « T-shirt au Duty Free ». Puis Paul Armand répète sa phrase. Il arrive aux douanes, il a dit au gars, « moi, j'ai acheté un T-shirt au New Free
». Au New Free, ben, il arrivait de Terre-Neuve.
Oui. Exact.
Mais François, ça va peut-être... D'abord, il va falloir que les frontières puissent rouvrir, étant donné que tu as passé par-dessus les frontières et on a appris que ta série, que tu as créée vraiment de toutes pièces, discussion avec mes parents... Oh là là!
Fais du parachute, François.
Je pense qu'il était il vient de passer dans une bourrasque. Alors que ta série discussion avec mes parents est partie pour l'international...
Oui, c'est vraiment une belle surprise qui n'en est pas une tant que ça parce qu'il y avait eu, il y a 2-3 ans, il y a un gros événement télévisuel en France qui s'appelle Série Mania, une espèce de gros festival d'acheteurs et de vendeurs de concepts télévisuels et notre série devait être en vedette à l'édition 2020 du festival. Cependant, bon, notre ami la COVID est venu foutre le bordel là-dedans. Et donc, ça a été annulé en 2020 et en 2021, mais les discussions déjà avec certains acheteurs internationaux avaient déjà été amorcées. Donc, ça a abouti, du moins l'étape 1 a abouti cette semaine avec NBC Universal qui a acheté les droits pour 3 territoires qui sont l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est. Il y a aussi des discussions avec des producteurs présentement en Allemagne, en Belgique. Les États-Unis ont appelé, on a le Canada anglais. Bref, ça déboule un peu.
Ça veut-tu dire que tu vas être aussi riche que Guillaume Lepage?
Bonne question.
Ça serait un peu naïf de penser ça.
Je ne sais pas si Guy écoute, mais en tout cas, ça rappelle le parcours d'un gars, une fille.
Ben oui. Est-ce que tes parents vont auditionner pour tes parents dans le rôle asiatique de ta série?
Si jamais ça arrive, j'ai déjà hâte de voir la même scène avec des versions de différentes langues. C'est vraiment un beau thrill que je n'avais jamais respecté parce que c'est le seul aspect du show sur lequel je me suis vraiment pas impliqué. Moi, j'ai les deux mains dans les textes, dans le jeu, dans le casting, dans la promotion, dans le montage. Mais quand notre producteur m'avait appelé il y a 3 ans pour me dire « Hey, il faudrait traduire 2 épisodes en anglais pour des ventes internationales », j'avais dit « Ah, sais-tu quoi? Confie ça à quelqu'un d'autre, là, moi. J'en ai plein les mains, puis j'y croyais comme plus ou moins. »
OK, tu n'y croyais pas tant voilà. Que ça, finalement. Tu n'étais pas convaincu que ça pouvait marcher.
Non, parce que c'est tellement personnel, ça part tellement de quelque chose de personnel que... Puis j'ai jamais fait l'effort non plus d'écrire en conséquence de ça. C'est-à-dire que jamais je me suis retenu d'écrire une scène en me disant « Ah, oh, c'est trop québécois, c'est trop local comme référence. » Moi, mon seul souci depuis le jour 1, c'est que cette série-là soit un succès ici. Et j'ai jamais priorisé rien d'autre que ça. Ce qui fait que je me suis dit, j'ai tellement pas fait d'effort pour que ça fonctionne que on dirait que oui, effectivement, j'y croyais pas tant. Mais en même temps, comme le disaient d'autres avant moi, plus t'es personnel, plus t'es international.
Ben, écoute, avec une part de marché en moyenne de 37% à Radio-Canada, c'est quand même énorme. Mm-hmm. Puis il faut savoir aussi que discussion avec mes parents. Tu sais, quand on regarde les parents, on a, je sais pas pourquoi, mais on se reconnaît tous. Il y a quelque chose qu'on reconnaît de nos parents. On a tous des parents qui sont, tu sais, à chaque génération, puis là, évidemment, c'est la tienne, mais à chaque génération, il y a, ça pourrait se faire d'une génération à l'autre, là. Ça pourrait être pas juste ta génération à toi, là. Ça pourrait être une génération plus tard.
François va être ses parents bientôt.
Hein?
Thérèse, François va être ses parents bientôt.
Ben oui. C'est vrai, bientôt? Non, quand même. Donne-lui un peu de temps.
Un peu, je suis allé dans une école secondaire à Ville-Saint-Laurent à deux reprises dans un cours de français avec la professeure. Puis, et Ville-Saint-Laurent, c'est très multiculturel. Dans la classe, il y avait deux Blancs. Il y avait moi et la professeure. C'était tous des élèves qui étaient issus des Asiatiques, des gens de partout, bref. Et puis, ils écoutaient la discussion. Puis, tu te rends compte que la relation parent-enfant dépasse de loin les considérations d'origine ethnique, de religion, de génération. C'est toujours relation parent-enfant, un mélange d'admiration, d'amour et de confrontation, puis parfois de honte.
Ah oui, c'est
vrai. Ouais.
Et on jongle avec tout ça, peu importe nos origines.
Mais tu vois, François, tu as raison de dire l'action, quand on suivait la série, se situait dans le quartier Saint-Sacrement à Québec. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'environnement géographique. Mais le thème familial, comme tu l'as dit, peut aussi bien s'exprimer, je sais pas, à Séoul, en Corée, ou encore à Tunis, en Tunisie, ou encore à Casablanca. La famille, c'est la famille.
Et ce, tu as raison, Paul, et ce, peu importe. Moi aussi, encore au départ, je croyais que ma série parlerait surtout essentiellement aux gens qui avaient eu un environnement familial assez similaire au mien, c'est-à-dire deux parents traditionnels de l'époque, c'est-à-dire que le père était le pourvoyeur, la mère restait à la maison, gérait la maisonnée, l'éducation des enfants, tout ça. Or, ce modèle-là a, comme on le sait, complètement éclaté. Puis je me rends compte que même des gens qui vivent dans un modèle différent du mien, donc famille reconstituée, quoi que ce soit, s'identifient quand même parce que, ou s'ils ne reconnaissent pas leurs parents directement à eux, ben c'est des parents de quelqu'un d'autre, ou c'est un oncle, ou c'est une tante, ou c'est les grands-parents, mais il y a toujours un lien quelconque avec une famille qui a un environnement différent du mien.
OK. Mais là, François, moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Bon, d'abord, la série est inspirée du livre que tu as publié en 2017, je crois, de mémoire. Et bon, j'imagine, bon, est-ce que le livre, par exemple, pourrait être publié ailleurs? Première chose. Deuxième chose, est-ce que tu vas avoir un droit de regard? C'est quoi ton droit de regard? Est-ce que est-ce que ça se négocie, ça, pour savoir, par exemple, si tu vas avoir un droit de regard sur ce qui va se faire ailleurs?
Par rapport au livre, je sais pas. C'est dans les mains de l'éditeur. Peut-être qu'effectivement, voyant que la série va voyager, que l'éditeur sera tenté de lui aussi faire voyager le livre.
Ben, ça, c'est ce que je pense, oui.
Mm-hmm. C'est les éditions de l'homme. Par rapport au droit de regard, ça dépend. C'est-à-dire que moi, j'ai envoyé le message très clair aux acheteurs que je sais que l'humour demande d'être adapté pour bien fonctionner. Il y a des références, il y a des questions culturelles à respecter, des trucs qui ont marché peut-être très fort ici, qui seraient moins clairs là-bas. Puis même pour des trucs qui marcheraient très bien, il y a une adaptation de langage à faire. Et moi, je connais pas le marché allemand ou le marché belge ou le marché du Liban. Moi, je connais le marché québécois. Donc, je m'attends à ce que les gens qui vont acheter fassent un travail d'adaptation et je leur fais entièrement confiance de faire les bons choix, autant pour les acteurs que pour les dialogues. Un exemple parmi mille, j'avais une réunion Zoom avec un producteur belge qui veut faire une version en flamand. Et il me disait que lui, l'acteur qu'il voit pour faire mon rôle là-bas, c'est un humoriste, un stand-up qui fait des spectacles là-bas. Et lui, dans la vie, il est épileptique. Et ça, c'est su, c'est connu parce qu'il fait des jokes là-dessus dans ses spectacles de stand-up. Or, il dit, aurais-tu objection à ce que dans la série, ben le gars soit épileptique et à l'occasion, ben il en parle puis qu'on le verrait peut-être faire une crise d'épilepsie. J'ai dit, j'ai aucun problème. Il faut que l'acteur, que ce soit un gars ou une fille ou peu importe, s'approprie le rôle et que ça transperce l'écran qu'on parle de lui ou d'elle. Donc, moi, j'envoie, autrement dit, je leur donne la liberté que je voudrais avoir si moi, j'achetais un concept étranger pour l'adapter ici. je m'attendrais à ce qu'on me fasse confiance sur le fait que, OK, ça, au Québec, ça ne marchera pas pour telle raison.
Tu connais ton public, ouais, tu connais les gens, tu sais à qui tu t'adresses, exact. Tu connais ton monde, tu connais la télévision de chez nous. Donc, tu voudrais avoir cette liberté-là, donc tu la permets ailleurs.
Oui, puis je me rends compte que c'est un élément important dans la négociation, jusqu'à quel point tu es prêt à leur faire confiance et à les laisser travailler. Il y a certains producteurs, les Européens, entre autres, sont très respectueux. Ils me posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses si on ferait ça comme ça? Puis es-tu ouvert à tel truc? Puis ailleurs, c'est mettons, les Américains ont une façon un peu plus américaine de négocier, c'est-à-dire qu'ils disent... Ça coûte comment ton affaire?
Exact.
Salut.
On va s'arranger avec le reste. En terminant rapidement, François, la troisième saison de discussion avec mes parents s'est achevée en décembre dernier. La quatrième, semble-t-il, est déjà en production, mais on parle déjà d'une cinquième en développement.
Oui, exact. La quatrième, on a la moitié de la série de tournée. On est carrément là-dedans. On a 20 jours de fait sur 40 de tournage. Et puis, on m'a demandé de commencer déjà une fois que le tournage sera terminé, parce que là, c'est un peu intense, mais donc, à partir du mois d'août, de commencer à écrire une saison 5 qui serait en onde en septembre de l'autre année. Donc, moi, je suis convaincu que j'ai le jus créatif et l'énergie et puis les idées pour en faire une cinquième qui sera tout aussi bonne. Mais je prends ça vraiment un an à la fois, en variété.
C'est quand même génial, François, parce que quand on s'est parlé la première fois, je m'en souviens très, très bien, on s'était parlé de discussions avec mes parents qu'on n'avait pas vu. On savait que ça s'en venait, puis on ne l'avait pas vu. Puis je t'avais dit, est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison? Est-ce que vous, tu sais, t'as déjà écrit, t'es en train de plancher. Vous étiez en train de tourner la première saison, t'avais déjà écrit.
Oui.
Et tu m'avais dit, moi, je prends ça une saison à la fois. Une saison, je suis déjà très content.
Et je me souviens. Ben oui, mais aussi parce que, tu sais, ça fait pas loin de 30 ans que je fais ça dans la vie et j'ai appris que dans les médias, il faut pas avoir trop d'attentes et qu'on y va un an à la fois. Parce que même si ça va super bien, il y a 1000 trucs que tu contrôles pas qui peuvent venir contrecarrer tes plans. Puis c'est ma façon de travailler, c'est de le voir un an à la fois, puis tu travailles sur un projet, puis t'espères que ça va bien, puis si c'est renouvelé, tant mieux.
Ben, dans bravo. Le meilleur des mondes.
Bravo, François.
Bravo, parce que le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe de l'Est.
Ben oui, c'est ça. Écoute. Tu vas peut-être voyager plus que tu le penses.
Oui, mon passeport est prêt.
Salut François, bon été.
Merci beaucoup d'avoir été là.
François Morancy, donc, qui, lui a dit qu'il n'a pas participé aux négociations. C'est toute une nouvelle de cette exportation à
discussion avec mes parents, qui est achetée par NBC Universal. C'est quand même une...
Je dois vous raconter une petite anecdote pour savoir comment ça marche dans le métier. Lorsque vous créez un quiz, ça c'est une autre affaire. Le quiz doit respecter intégralement les règles émises par le créateur. Alors, à l'époque où j'animais Lingo, Radio-Canada me dit, le créateur aux Pays-Bas, il était d'Amsterdam, avait créé le jeu Lingo. Ah, j'ai dit, c'est intéressant. Le créateur va être là pour la première séance d'enregistrement pour que les règles du jeu Lingo créées aux Pays-Bas soient respectées intégralement. Alors, on me le présente à la fin. Il parle le néerlandais et son nom était François Boulanger.
Un nom qui est pas...
Alors, je dis, mais ça ressort d'où ce nom-là?
Ça sort d'où, ouais.
Oui. J'ai dit, il a fait exprès pour venir voir le quiz Lingo joué au Québec et tu donnais un nom québécois. Non, il dit, c'est mon vrai nom. Ben, écoute, une petite anecdote. Au retour, mesdames, messieurs, Jean-Michel Anctil fait du théâtre.